vous apporte les salutations de l'église d'Ingersheim. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant sur moi pour que vous sachiez qui vous parle ? Pierre-Yves Wurtz, un nom barbare venu de l'Est. Et pourtant, je ne suis pas tant de l'Est, puisque celui qui m'a donné mon nom, M. Wurtz, est décédé. Mais ce n'était pas lui qui était mon père, mon géniteur. Mon géniteur s'appelait Mokhtar Benyamina. Il était kabyle. Je ne l'ai pas connu, malheureusement. L'histoire serait un peu longue à raconter ce matin. Mais voilà, et une maman alsacienne. Je suis chrétien depuis l'âge de 18 ans à peu près. Et puis dans la vie, qu'est-ce que j'aime beaucoup ? Les tomates. J'aime le volleyball, mais j'ai plus tellement le poids pour faire les sauts qui conviennent. Et puis la moto. J'ai failli d'ailleurs venir en moto ce matin, mais j'ai un peu hésité. J'ai bien fait parce que la route était à zéro, donc on ne sait jamais par où on passe. J'ai été éducateur dans mes jeunes années professionnelles, 4 ans, avec des adolescents. Ensuite, j'étais pasteur, 2 ans dans mon église d'origine à Wittenheim, dans la banlieue de Mulhouse. Ensuite, 10 ans dans ce qui s'appelait à l'époque Krishona, qui est maintenant rattaché à Perspective, hein, qui a fusionné avec les églises France Mission. Ensuite, 3 ans avec France Mission, justement, comme missionnaire en Seine-et-Marne, dans une église qui démarrait. Et puis ensuite, un petit peu d'années où j'ai changé de route. Et puis depuis 2018, je suis accueillant familial pour des adultes. Vous connaissez peut-être l'accueil familial pour les enfants, hein, ça c'est un peu connu, pour les adultes ça l'est moins. Donc on accueille à ce jour un jeune homme qui vient de Guyane et qui est schizophrène, et un autre monsieur un peu plus récemment qui a 52 ans et qui est autiste. Voilà, donc notre quotidien est à la maison avec ma femme qui est en retraite maintenant, et moi, et tous les deux nous accompagnons ces deux personnes. Je vous laisse un sujet de prière. On travaille aussi depuis 3 ans bientôt sur un projet pour monter une structure pour accueillir 10 personnes psychotiques avec une association de Mulhouse. Ça va pas vite, je n'ai plus 40 ans, donc voilà, je trouve que ça va pas assez vite du tout, mais on travaille à ce projet. Voilà pour moi et pour vous. Alors je ne vais pas vous demander de faire tout le tour, mais ce que j'aime bien faire de temps en temps, je fais ça aussi à Ingersheim, de 0 à 10, ce matin, vous êtes où en termes d'énergie, de disponibilité ? Plus près de 4, plus près de 7 ? Dites-moi. Ah, c'est difficile parfois. Jean-Loup, 5. Qui c'est qui est au-dessus de 5 ? Je ne vais pas vous demander tout. Voilà. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a de l'énergie. Alors, il y en a qui sont à 4 ? Ouais, d'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée de faire un culte à 10h30, hein, pour moi déjà, parce que je viens de loin. Mais je me suis toujours plaint, même en tant que pasteur. J'ai grandi dans une église où le culte était à 10h moins le quart. Et j'ai dit, mais d'ailleurs, on est déjà un peu dans le thème quand je vais dire ça. J'ai dit, c'est quand même quelque chose, on prêche la grâce, et puis le seul jour où on peut se reposer, on se lève aux aurores, enfin peut-être vous êtes levé tôt, parce que peut-être qu'il y a des kilomètres pour vous aussi, certains j'imagine. Hein. Et bien justement, j'aimerais vous parler de la grâce ce matin. Je suis convaincu, comme je prêche quelque part, si je sais que je vais revenir, en général je choisis de traiter ce thème, parce qu'il me paraît tout à fait central. Dans Éphésiens 2, c'est un verset qui n'est pas devant vous, il est marqué au verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Je suis convaincu que si nous vivions en tant que chrétiens, en tant qu'église, vraiment la grâce de Dieu, je pense que nos églises seraient pleines. Vous avez tous rencontré déjà des gens qui ont eu un impact. Il suffit parfois de les rencontrer sans même qu'ils aient ouvert la bouche. Vous savez qu'il y a quelque chose qui les anime de puissant. Je pense, peut-être parce qu'on a parlé du carême tout à l'heure, à Sœur Emmanuelle. Hein, ça vous dit quelque chose, cette femme ? Il suffisait de la voir pour voir l'énergie qu'elle avait et pour sentir qu'elle était habitée de cet amour qui lui a fait, et ça m'a fait beaucoup de bien, moi qui trouvais que les choses n'allaient pas assez vite parfois, de découvrir que c'est à 62 ans seulement qu'elle a commencé ce ministère. À l'heure où toutes les bonnes sœurs, et puis les Français maintenant, enfin maintenant c'est bientôt 64, il paraît, je ne sais pas, prennent leur retraite et aspirent à être tranquilles, et elle a commencé à faire ça. Alors que toute sa vie professionnelle, si je veux parler comme ça, de bonne sœur, c'était d'abord en Turquie et ensuite en Égypte, à s'occuper de gosses de riches. Donc elle a obéi à son institution, et quand elle était libre de faire son propre choix, elle a fait ça. On fait pas ça par hasard. Hein. On fait pas ça par... pour faire bien. On ne fait ce genre de choses que quand on est habité par quelque chose qui, pour moi, est la grâce. Alors, je ne suis pas venu vous faire un cours de théologie très académique, mais à travers les différents textes qu'on va voir, je ne les lirai même pas. Peut-être certains, je les mentionnerai. Vous les connaissez pour la plupart, mais vous les avez sous les yeux et vous pourrez y revenir cette semaine. On va voir à travers ces différents textes ce que la grâce peut signifier concrètement. Ce matin, je vais m'arrêter, j'ai un plan en 5 points, donc les 3 prochains, ça sera la prochaine fois quand je reviens au mois d'avril, Dieu voulant. Mais ce matin, m'arrêter simplement sur la grâce recherchée plus que tout, et la grâce reçue, qu'est-ce que ça veut dire que recevoir la révélation de la grâce de Dieu ? Alors le mot grâce, quand même un petit peu de choses plus théoriques. Le mot « charis », qui est à l'origine dans le Nouveau Testament, signifie la joie, est proche du mot « joie ». C'est la notion d'un cadeau qui est gratuit. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Et parfois, lorsque j'ai traité ce thème lors d'un week-end ou même lors de séjours pour des jeunes adultes dans le passé, j'achetais des petits cadeaux à 2 euros, 3 euros, 1 euro, petites choses rigolotes ou sympathiques. Et puis pendant le week-end ou tout le séjour, je distribuais mes petits cadeaux. Je me suis demandé d'ailleurs ce que je pourrais faire. Je me suis dit, tiens, je pourrais leur ramener un petit pain, mais quand disait Rémi, c'est un peu tard déjà pour le petit pain. Et c'était toujours très intéressant de voir comment les gens réagissaient. Il y a des gens, quand vous leur faites un cadeau, on a l'impression que c'est un truc qui brûle et qu'ils ne veulent surtout pas prendre dans les mains. Je l'ai encore vérifié hier. J'ai offert un petit pain de chocolat, c'est pas un lingot d'or, hein, à une dame, elle a eu toutes les peines du monde à l'accepter. Mais vous n'en avez pas besoin, mais elle cherchait des excuses pour ne pas accepter ce petit pain. Ma femme, je ne savais pas, juste avant, lui avait offert un paquet de café, elle voulait donner de l'argent. C'est une chrétienne, hein, précise. Comment ça se fait qu'on a du mal avec la grâce, avec les cadeaux? Qu'est-ce qui fait que parfois ça paraît même suspect si quelqu'un vous offre quelque chose, on suppose qu'il cherche à vous manipuler, soit qu'il attend quelque chose en retour. Hein. Moi j'aime beaucoup offrir des fleurs aux dames. Et souvent les dames me disent « Ah mais il ne fallait pas ». Alors longtemps je rigolais, puis maintenant quand une dame me dit ça, je dis « C'est pas grave, je vais les ramener à ma femme ». Manière de dire quoi. Hein. Quand je disais tout à l'heure que les églises seraient pleines si nous vivions vraiment la grâce, c'est que je pense que la grâce de Dieu est la chose la plus subversive qui existe au monde. C'est la chose qui peut bouleverser le plus la vie d'un être humain qui l'accepte, qui la reçoit et qui en vit. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans la foi et dans votre marche avec Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, forcément, vous avez touché un petit peu ou beaucoup ce que signifie recevoir le pardon, ce que signifie être sauvé, ce que signifie retrouver une relation avec notre Créateur. La grâce, c'est quelque chose qui est donné gratuitement et c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et j'aime bien le rappeler, ça aussi, quand je suis quelque part, surtout quand je suis dans l'église où je vis, parce que les gens peuvent parfois mal le prendre, mais j'aimerais vous le dire aussi à vous ce matin. Vous n'êtes pas des gens bien. Nous ne sommes pas des gens bien. Et certainement pas meilleurs que ceux qui sont restés au lit ce matin, ou qui sont à la pêche ou à la chasse. Vous êtes d'accord avec ça ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous demanderez mon mail, mon téléphone à Jean-Loup, et on pourra continuer la discussion plus tard. Et je dis ça en souriant, mais je le crois profondément, et il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est pas parce qu'on est un peu mieux que les autres que Dieu nous aime, que Dieu nous a choisis. Et on le voit en Israël actuellement, pour moi ça me fait pleurer de voir comment le peuple d'Israël aujourd'hui se comporte avec les Palestiniens. Alors c'est pas tout blanc, tout noir, on est d'accord, hein. Mais quand même. Et nous, qui disons avoir reçu la grâce, qui disons nous savoir aimés de Dieu, comment je parle à ma femme? Comment je suis avec mes enfants? Est-ce que mes enfants, le souvenir qu'ils vont garder de moi, c'est un père qui les aime, un père qui les accepte comme ils sont, un père qui souhaite qu'ils les dépassent? J'ai vu des hommes à 50 ans se débattre dans leur vie parce que leur père a tout fait pour les garder sous eux. Il ne les a pas aidés à prendre leur envol. Alors la grâce recherchée plus que tout, à tout prix. Dans Luc 15, vous connaissez cette histoire qu'on appelle à tort la parabole du fils prodigue, parce qu'en fait, ce n'est pas la parabole du fils prodigue. On décentre le sens profond de ce texte, c'est la parabole du père qui a deux fils. Hein, parce que quand on parle du fils prodigue, on a tendance à oublier qu'ils étaient deux, que tous les deux, chacun à leur manière, sont passés à côté de la grâce de Dieu. Sont passés à côté de l'amour de leur père, n'ont pas compris à quel point ils pouvaient être libres dans la présence de leur père. La grâce existe, encore faut-il la chercher. Quand est-ce que le fils prodigue a commencé à se préoccuper de revenir vers son père? Quand ça? Question.
Quand il était dans la misère.
Quand il n'avait plus rien. Moi, je me suis converti, c'était un jour précis, le 15 janvier 1980, dans ma chambre. Ma maman était venue me voir, elle voyait bien que ça n'allait pas bien dans ma vie, j'étais en terminale. Elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Elle m'aurait demandé ça 3 jours avant, je lui aurais rigolé au nez. Et ce jour-là, j'étais prêt. J'étais comme dans une impasse, et je savais qu'il fallait que quelque chose change. Et ce jour-là, je me suis tourné vers Dieu. Mais en tant que chrétien, même si on a vécu des choses comme ça, quel que soit notre parcours, notre manière d'avoir rencontré Dieu, parfois on peut oublier ça, et vivre sans Dieu. Il est arrivé au bout de lui-même, ce jeune homme qui était parti, la fleur au fusil, en pochant le pactole du Père. Et ça dit tellement de la grâce de Dieu, ça. Hein? Parce que souvent, quand nous donnons, au fond, c'est une manière d'acheter l'autre. Je connais peu de gens qui sont capables de donner vraiment gratuitement. Et surtout quand il est question d'argent. Est-ce que quand je donne, je m'attends quand même à quelque chose en retour ? À commencer par un merci. Si vous voyez ces deux gars qu'on a à la maison, Clifford, le premier, a 35 ans, donc Sébastien en a 52, et je les sers à table, souvent le soir, parce qu'on mange en décalé, à midi on est tous autour de la table, mais le soir c'est un peu chacun à son heure. Et puis comme je prépare le repas souvent, pas toujours, mais la plupart du temps c'est moi qui le prépare, ils sont assis à table, tous les deux, je viens, je leur sers le repas, et puis il n'y a pas un merci. C'est normal. Et c'est même pas parce qu'ils disent que je suis payé pour ça, parce que je crois qu'ils sont même pas dans ces trucs-là, c'est juste que voilà, c'est comme ça. Donc une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je leur dis merci. Il y a tellement de choses qu'on pense être dues. C'est normal après tout. Hein. Il est arrivé au bout de ses faux rêves, ce jeune homme. Il avait des rêves plein la tête. Le premier de ses rêves, c'était de quitter son père, de quitter sa famille. On a entendu l'appel formidable, et là c'était pas un fourrage, c'était l'appel de Dieu pour Abraham à partir, et parfois il faut partir. Et puis il est arrivé au bout de ses ressources. Les ressources financières, puis du coup aussi les ressources humaines, parce que tous les copains autour, ils sont partis. Et il est seul. Et reconnaissons-le, c'est souvent quand on se retrouve dans sa vie, dans ces moments-là, qu'on se met à réfléchir à ce qui est vraiment sérieux. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé à nous aussi d'avoir oublié Dieu et d'avoir besoin d'être rappelé ? Je n'ai pas regardé l'heure, voilà. Alors, le fils prodigue, c'est le bon exemple à suivre. On n'est pas forcé d'attendre d'être allé aussi loin dans nos bêtises, ou aussi loin dans notre volonté de se débrouiller tout seul, mais on peut parfois s'y prendre plus tôt, et c'est le sens de ma démarche en partageant cette pensée avec vous. Il a commencé par réfléchir. Merci pour ce temps de méditation, dit quelqu'un tout à l'heure dans la salle, dans la prière. On vit dans un monde où il y a du bruit tout le temps. On nous met de la musique dans le magasin pour occuper notre esprit, comme ça on dépense un peu mieux. On nous met parfois du bruit chez le docteur. Il y a du bruit, il y a des images partout. Je pense que c'est quelque chose de très simple, et je me le dis à moi-même, le premier, que de prendre du temps pour se mettre à l'écart, pour faire silence, pour examiner ses motivations, pour voir si, oui ou non, nous vivons de la grâce de Dieu, ou est-ce qu'on essaye de se débrouiller tout seul. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, aussi dans Luc 15, c'est de lire qu'il réalise au verset 17, je crois, si je ne me trompe pas, il se mit à réfléchir sur lui-même, il se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Il a pris conscience de la réalité des choses. Pascal, le philosophe, parlait de la distraction comme un des maux de la vie. Et il parlait au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, la distraction, elle est omniprésente. Aujourd'hui, on dit que c'est la bataille de l'influence. Vous avez entendu comme moi parler de l'intelligence artificielle ces derniers temps, ces derniers jours. Et bien l'intelligence artificielle, entre autres, c'est apparemment, si je comprends bien, une manière aussi de chercher parfois à capter notre intellect, nous amener à notre insu à penser autrement. Il ne s'est pas contenté de comparer son état présent à celui des ouvriers de son père, il s'est mis en route. Il a bougé. Il n'est pas resté à se complaire dans son malheur. Il ne s'est pas tourné vers la colère ou vers un sentiment d'injustice. Il s'est mis en route. On parle de conversion. On a l'impression que la conversion, c'est une fois. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que la conversion, bien sûr, il y a un acte initial, celui qui nous permet de rencontrer le Christ. Mais dans notre vie, on a parfois besoin de faire des conversions. Je ne sais pas s'il y a des skieurs parmi vous, mais je me souviens toujours d'une amie à qui j'avais essayé d'apprendre le ski sur une petite piste dans les Vosges, au grand ballon. Et puis elle était si peu sûre d'elle qu'elle n'a même pas fait dans la pente. Elle a été comme ça le long de la pente. Et puis au bout d'un moment, elle est arrivée au bout de la largeur. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire demi-tour. Alors elle l'a fait en se couchant par terre, en jouant les skis comme ça. Et puis elle m'en a voulu pendant 10 ans, parce qu'elle trouvait que j'avais été un professeur un peu trop dur. Ce jeune homme, il a changé de route. Et changer de route, ça voulait dire quitter ses faux rêves. Reconnaître que ce qu'il avait fait jusque-là l'avait amené nulle part. Reconnaître que lui qui pensait qu'il n'avait pas besoin de son père, malgré le fait qu'il avait quand même pris son argent, avait besoin de ce père et qu'il revenait vers lui. Et puis la route est longue. Il s'est préparé à rencontrer son père. Là, il devait avoir le trouillomètre à zéro. Lui qui était parti de la tête haute, peut-être en se moquant de ceux qui restaient, il allait cette fois-ci se préparer à rencontrer ce père en disant « Écoute, si tu me donnes au moins ce que reçoivent tes ouvriers, je serai content et satisfait avec cela. Vous voyez que la grâce n'est pas un chemin facile, forcément. Hein. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que nous avons tellement de mal. Hein. Le texte de Matthieu 22, que vous avez aussi sous les yeux, sur le papier que je vous ai donné, c'est l'histoire de ce roi qui invite des gens à venir à un festin qu'il prépare. Et puis, comme il est dit au verset 5, les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires, les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Et du coup, le roi va inviter d'autres personnes. On peut refuser la grâce de Dieu. C'est le cas de ceux qui, non chrétiens, ont déjà été confrontés à cette possibilité et l'ont refusée. Moi, je me souviens de beaucoup de conversations avec des gens autour de l'Évangile, et au bout d'un moment, ils avaient l'impression d'avoir compris ce que je leur disais, mais ils leur disaient « c'est trop facile ». Quoi ? Il suffit de demander pardon ? C'est trop facile. C'est abandonner les rênes. La grâce reçue, dans Luc 19, on connaît aussi bien cette histoire de la rencontre entre Zachée et Jésus. On voit que Zachée, il n'a qu'une hâte, c'est de rencontrer ce prophète dont il a entendu parler. Il prend des risques pour monter sur l'arbre. Lui qui a plutôt l'habitude de frôler les murs, qui n'est pas aimé par ses prochains, et pour cause. Il rencontre le maître et il est dit au verset 8, « Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Il n'y a même pas eu de conversation. Jésus n'a même pas été obligé de pointer ce qu'il faisait de travers, l'injustice qu'il commettait envers les autres. Il avait déjà compris. Il fallait que quelque chose change. La grâce de Dieu, c'est effectivement pas seulement recevoir le pardon et après je continue comme avant. C'est accepter que toute ma vie soit bouleversée. On vit la grâce seulement quand on a compris à quel point elle est précieuse et qu'on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus. Jusqu'à quand est-ce que, en tant que chrétien, on s'appuiera sur notre CV ? Sur, allez, puisqu'on est entre mélanges, j'ose le dire, hein, sur nos familles. Je suis seulement depuis 6 ans dans une église mélonite, mais je fréquente les églises mélonites depuis longtemps, parce que j'ai été directeur du centre de vacances avec Joabi, j'en étais le président quelques années, donc j'ai été souvent invité. Et parfois j'ai l'impression que quand c'est tel ou tel nom de famille qui parle, c'est pas pareil que quand c'est quelqu'un d'autre qui parle. Alors vous me direz, dans d'autres églises, c'est pas le nom qui compte, c'est autre chose. Est-ce qu'on s'appuie là-dessus ? C'est toujours rire, hein, quand s'il y a un médecin qui rentre dans l'assemblée, là, tout d'un coup, on va dire « Ah, bonjour, monsieur le médecin, docteur. Hein, » L'apôtre Jacques nous rappelle l'importance de ne pas faire d'acception de personne. Est-ce que je vis en m'appuyant sur Jésus ? Ou est-ce que je vis en m'appuyant sur ce que j'ai amassé, sur... sur mon intelligence, sur mes diplômes. Acquérir la grâce, c'est se reconnaître perdu. Et pas seulement la première fois, mais c'est reconnaître que profondément, en tant qu'être humain, on s'en sort pas seul. Et c'est là qu'il y a aussi un point de divergence avec tout ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui, hein, qui, pour l'essentiel, et j'ai rien contre dans le principe, si certaines choses peuvent nous aider. Mais l'Évangile est dit qu'on ne va pas s'en sortir seul. C'est pas en moi-même que je vais trouver des ressources pour vivre. J'ai besoin que Dieu, non seulement me donne des conseils, c'est pas un coach Jésus, mais que Dieu me donne sa vie, que Dieu vienne vivre en moi. C'est pas le moindre des mystères de l'Évangile. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, l'apôtre Paul en Galates. Accueillir la grâce, c'est accueillir Jésus dans sa maison. C'est ce que fait Zachée de manière symbolique quelque part. Mais c'est plus que ça. c'est les laisser prendre la direction de nos vies. Accueillir la grâce, c'est encore prendre le risque de voir sa vie, ses habitudes bouleversées par cette grâce. Si je sais que Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle, si je vis cette réalité, je ne peux pas être la même personne. Et je dis d'autant plus facilement que je ne vous connais pas, donc je pense à personne en particulier. Et puis d'abord, ce qui m'aide beaucoup, depuis longtemps maintenant, dans ma manière de vivre la grâce, c'est de comprendre qui je suis moi, de quoi moi je suis capable. Quand j'ai compris ça, je n'ai pas grand-chose à dire aux autres. Je vais finir avec le texte du chapitre 18, Matthieu 18, quand Jésus parle et il encourage ses auditeurs en se plaçant avec les enfants, au verset 2. « Vraiment, dit-il, je vous assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. » Jésus n'est pas en train de faire l'apologie de l'enfance comme un état de perfection. Les enfants sont capables des pires choses parfois. Mais il prend cet exemple pour montrer que comme les enfants, nous avons besoin de redevenir petits. Comme les enfants, nous avons besoin d'accepter de redevenir dépendants. Comme les enfants, nous devons être capables de recevoir joyeusement un cadeau quand on nous en fait un. On a parlé de confiance tout à l'heure, dans les chants et dans les textes. Celui qui a confiance, il ouvre les bras, il ouvre le cœur. Et puis il accepte l'autre. Si vous aimez lire, je vous recommande un livre qui s'appelle « L'éveil à la grâce », si je ne me trompe pas, de Charles Swindon. C'est un livre déjà assez ancien, qui est un des meilleurs sur le sujet, à mon sens. Et puis un autre qui s'appelle « La grâce » de Philippe Yancey. Charles Swindon dit « Celui qui n'a jamais trop prêché la grâce ne l'a jamais prêché. » J'ai l'impression que quand on aborde la grâce, on dit « Oui. » C'est un des cinq piliers de la foi protestante. Oui, la grâce, oui. Mais, il n'y a pas de mais. Dieu nous aime inconditionnellement. Combien de chrétiens j'ai rencontrés dans mon ministère qui passaient leur temps à vouloir mériter l'amour de Dieu, qui étaient dans les œuvres. Et Dieu sait que nos églises évangéliques savent être occupées. Hein. Et combien de fois je me suis dit, si, parfois si on en faisait un peu moins, et qu'on faisait surtout ce que Dieu nous demande et pas ce que nous, on s'invente à faire. Vous pourrez lire Tite 2, versets 11 à 13, qui nous rappelle que la grâce de Dieu nous éduque, qu'elle est un chemin de vie. Je ne vais pas m'y arrêter ce matin, je ne voudrais pas être trop long. Ce que j'aimerais nous laisser, c'est cette phrase simple, cette vérité simple. Et j'aimerais le dire à Christian, à Michel, à Christian, à Corinne,
à Annie,
Marie-Christine,
Martine,
pardon,
Jean-Marie,
Sophie,
Daniel,
Jean-Louis,
Henri,
Laurette,
Pierre, Dieu. T'aime. Dieu nous aime. Et pas que nous, hein. La famille est grande. D'ailleurs, Dieu aime le monde entier. Jean 3,16. Mais Dieu aime particulièrement, on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 33, ceux qui ont décidé de lui faire confiance. Ceux qui veulent croire qu'effectivement, Dieu les aime d'une manière imméritée, qui nous fait ce cadeau de vivre avec lui. Et j'espère que ça va se traduire cette semaine dans notre façon de parler tout à l'heure à notre épouse ou à notre époux, à nos enfants, à nos collègues de travail, à notre voisin qui nous enquiquine, à que sais-je encore. À prendre l'habitude peut-être aussi, c'est un exercice spirituel, de commencer la journée en disant « Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné hier, merci pour ce que tu vas me donner aujourd'hui. » Et même parfois, ça serait bon de faire la liste de ce que nous avons reçu, pour ne pas l'oublier. Amen.